RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense, donc j'agis. Nous venons de parler, vous l'avez entendu, de Joséphine Baker qui va rentrer au Panthéon ce 30 novembre. Un symbole fort pour cette immense artiste, chanteuse, actrice et puis grande danseuse. Et justement la danse, eh ben on va en parler jusqu'à 11h ce matin dans Je pense donc j'agis, et on va voir comment on peut démocratiser cet art et le rendre un peu plus accessible, notamment dans des endroits où la danse n'est pas forcément accessible. Vous avez la parole pour apporter vos témoignages. Dites-nous si vous avez appris la danse quand vous étiez petit. Pour vous, que représente la danse? Et puis si vous connaissez des associations qui œuvrent sur les territoires pour faire connaître la danse, eh bien vous venez prendre la parole ce matin au 04 72 38 20 23. Vous laissez vos messages dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis et vos mails à l'adresse direct@rcf.fr.
Jusqu'à 11h, Je pense donc j'agis sur RCF.
Je pense donc j'agis avec nos chroniqueurs qui chaque jour viennent prendre la parole à 10h20 pour nous parler d'engagement et de moyens d'agir. C'est ce que fera Martin Ferron du magazine La Vie. Il nous parlera notamment de Raïkop. On va accueillir nos deux invités qui nous accompagnent jusqu'à 11h. Bonjour Natacha Lefrène.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF en direct de nos studios qui se trouvent à Rennes. Vous êtes directrice et programmatrice de Danse à tous les étages, une association basée à Rennes et Brest dont l'objectif principal est d'amener la danse dans des endroits où elle n'est pas forcément là. Et vous allez nous présenter les différentes actions au cours de cette émission. Bonjour Alexia Ducassé.
Bonjour.
Bienvenue à vous sur RCF. Vous êtes gestionnaire de l'association Art Tendance. Vous êtes, basé à Paris. J'aimerais quand même qu'on parle de Joséphine Baker. C'est un peu sa journée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Alexia Ducassé, Joséphine Baker? Qu'est-ce qu'elle a apporté pour vous dans le milieu de la danse?
Ben, je dirais l'espoir, en fait, que chacun puisse arriver au plus haut niveau.
Oui. Ça, c'est Joséphine Baker pour vous. Natacha Lefrène, même question.
Joséphine Baker, pour moi, c'est plusieurs choses. Et d'ailleurs, les personnes qui participaient à l'émission précédente en ont bien témoigné. C'était assez émouvant d'entendre ces différentes paroles sur cette femme. C'est à la fois le partage d'un plaisir de danser, pour moi, avec une grande liberté, une grande générosité et voilà, une performeuse incroyable et en même temps un engagement politique fort. Donc pour moi, elle représente aussi une femme talentueuse, courageuse, qui ouvre la voie à beaucoup de choses derrière, dans le champ de la danse et au-delà d'ailleurs.
Comment vous êtes tombée dans la marmite de la danse, Natacha Lefrène?
Un peu comme Obélix. Je suis tombée dans la marmite de la danse quand j'étais toute petite, à savoir que, comme beaucoup de petites filles, j'ai souhaité pratiquer la danse classique. Voilà, donc c'est par cette entrée que j'ai fait mes premiers pas dans mes petits chaussons. Et j'ai eu la chance, je dirais, de rencontrer des professeurs, des passeurs de danse absolument incroyables qui m'ont donné tout de suite le goût de la pratique de la danse, mais aussi le goût de la création. Donc à l'époque, je pratiquais à côté de Rennes avec un chorégraphe de danse jazz qui s'appelle Wayne Barbast, oui. Qui est aujourd'hui installé du côté d'Annecy, il me semble. Voilà, et qui était une personne passionnée, qui faisait beaucoup de choses sur son territoire. Et par la suite, j'ai aussi rencontré, par l'intermédiaire de la pratique, des personnes qui finalement m'ont communiqué ce beau virus qu'est la danse.
Et vous, Alexia Ducassé, en parlant de virus, comment vous l'avez attrapé, ce virus de la danse?
Alors,
vous êtes professeur de ballet, ça je ne l'ai pas précisé tout à l'heure.
Oui, en partie.
En partie, voilà. Vous êtes danseuse en tout cas.
Voilà, je pense que c'est effectivement comme Natacha, tout petite. Disons que moi j'ai une maman professeure de patinage artistique et une mamie qui était patineuse artistique aussi, donc on baigne dedans depuis plusieurs générations. La musique, le rythme, je pense que je dansais avant de naître, en fait.
Ah oui.
Voilà.
Et est-ce que vous avez eu un parcours classique? Alors, je dis bien parcours classique, ça veut dire la danse classique qu'on apprend quand on est petite fille, par exemple?
Oui, tout à fait. Hein. J'étais dans une petite école du village. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vraiment voulu mettre la danse au premier plan de ma vie. Et je suis rentrée au conservatoire de Toulouse. Donc là, j'ai découvert la danse contemporaine. Ce ne fut pas une rencontre tout de suite d'amour. C'était plutôt compliqué au départ. Mais au fur et à mesure des cours et grâce aux professeurs du conservatoire, j'ai vraiment réussi à acquérir ce goût aussi de la danse contemporaine. Et puis ensuite, je suis partie en formation à Paris après avoir passé un bac littéraire option lourde danse. Donc, on allait voir des spectacles, on a rencontré beaucoup de chorégraphes aussi. C'était un coefficient 6 au bac, donc c'était vraiment super important. Ça prenait beaucoup de place. Ça et l'histoire de la danse, évidemment. Et donc, j'ai fait une formation à Paris et puis je suis partie aux États-Unis ensuite, à New York, faire une formation au Broadway Dance Center. J'ai eu cette chance.
Ah voilà. Oui, donc vraiment, la danse vous accompagne du début jusqu'à la fin, en tout cas pour cette carrière pour vous. Natacha Lefrène, on parle bien sûr d'une pratique artistique, la danse. J'ai l'impression quand même que ce sont plutôt les danses, car il y a beaucoup de styles différents.
Oui, il y a toujours eu beaucoup de styles différents en danse. Il y a à la fois des pratiques populaires. Je pense que voilà, tout le monde a déjà dansé au moins une fois dans sa vie. Il y a bien sûr les bals, les danses traditionnelles, les danses urbaines. Après, on a parlé aussi des danses classiques, de la danse classique, où la France a joué un rôle fondamental aussi dans l'émergence de cette danse. Les danses contemporaines, c'est vrai que aujourd'hui on est sur une telle diversité des esthétiques en danse que c'est difficile aussi de parler de danse contemporaine parce qu'on se demande souvent de quoi on parle. Quelque part, les danses contemporaines, ça devrait pouvoir englober toutes les danses qui se créent aujourd'hui et qui recouvrent des pluralités d'influences énormes, avec évidemment des croisements aussi forts et des hybridations entre ces danses. Donc c'est vrai que nous on aime bien parler de danse actuelle, un petit peu comme les musiques actuelles, qui sont peut-être aussi un petit peu moins à véhiculer un imaginaire, parce que souvent quand on parle de danse contemporaine, je remarque quand je parle avec des amis par exemple qui sont pas du tout dans ce champ-là, qu'il y a des formes d'a priori par rapport aussi de nommer au fait de nommer ces danses contemporaines et un imaginaire que ça peut recouvrir, alors que la réalité aujourd'hui elle est très diversifiée et tout autre.
Et c'est quoi la danse contemporaine pour vous alors ?
C'est une bonne question, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Ouais.
Parce que autant la danse classique, on la visualise facilement, je pense.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Bah, une danse contemporaine, on va dire pour le dire très simplement, c'est une danse qui a pu s'affranchir aussi de certains codes d'écriture, donc qui est vraiment sur une question de création, de liberté de mouvement, et qui est venue finalement nommer toutes les danses de création d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est assez vaste et ça recouvre aussi des réalités esthétiques très très différentes les unes des autres, si bien que pour moi c'est un petit peu réducteur aussi parfois d'utiliser un terme pour exprimer toute la vitalité et la diversité aussi de ces formes de création.
Et des styles différents, vous en proposez également au sein de vos actions, j'ai du mal à parler ce matin, au sein de vos associations respectives. Vous avez un objectif commun, rendre plus accessible la danse, ou en tout cas la démocratiser. Alexia Ducassé, c'est venu dès le début de la création de l'association Art en Danse à Paris.
Oui, tout à fait. Dès le départ, en fait, on avait vraiment envie de créer une association qui serait le plus accessible possible. On est basé dans le 13e, c'est pas forcément un quartier où les enfants ont accès à des activités. Il y a une grosse dynamique de la mairie de Paris du 13e pour rendre accessible le sport pour tous. Donc c'était vraiment un vrai désir de l'inclusion, tant sur le plan des tarifs que sur la diversité de styles qu'on pourrait proposer. que sur l'inclusion aussi des enfants et des adultes handicapés. Oui. Ça, c'était vraiment très, très important pour nous de pouvoir accueillir tout le monde sans refuser personne et que chacun se sente bien dans cette pratique.
Vous l'avez dit, c'est dans le 13e, c'est un quartier qui est plutôt populaire à Paris.
Oui, tout à fait, oui. On est vraiment à la limite de la porte d'Ivry, hein, donc ouais. On est limitrophe avec Ivry.
Mais alors justement, comment on parle de la danse dans des milieux où la danse n'est pas forcément présente, ou en tout cas la danse classique n'est pas forcément présente? C'est tout un défi, c'est tout un programme.
Tout un programme. Après, comme disait Natacha tout à l'heure, hein, les petites filles ont envie de faire de la danse classique. C'est un peu le rêve, le tutu,
c'est le rêve
les pointes,
de princesse
etc.
Aussi,
exactement. Donc c'est pas trop difficile en fait. Moi, ce que je trouve plus difficile, c'est de sortir mes jeunes ados de ce tutu et pointe pour les emmener vers autre chose. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors on essaye, on les emmène voir des spectacles, on en parle, on fait des masterclass, mais voilà, pour qu'elles voient qu'il n'y a pas un style de danse et que on peut s'épanouir totalement dans autre chose.
Natacha Lefrène, même mission pour danser à tous les étages?
Oui, je dirais que c'est cette accessibilité de la danse au plus grand nombre, ça a vraiment été le moteur de la création de l'association, donc qui a été créée en 1997. Par une grande militante de la danse qui s'appelle Annie Bégaud et qui a œuvré pendant toutes ces années à essayer de tisser des liens entre la danse, la pratique de la danse, des créateurs et des personnes qui, a priori, en sont éloignées. En sont éloignées parce que socialement, pas forcément dans des cercles qui côtoient l'art et la culture au quotidien. Également, voilà, tout un travail mené auprès de public en situation de handicap, des personnes également migrantes qui viennent d'arriver sur un territoire et qui n'ont pas encore forcément de point d'insertion au niveau de l'art et de la culture. Et puis aussi, puisque nous on a une spécificité qui est que nous sommes une structure nomade et itinérante, on n'est pas attaché à un lieu en particulier. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a deux pieds d'ancrage à Rennes et à Brest, mais on déploie aussi nos activités sur des territoires associés et notamment sur des territoires où ruraux, on va dire, où la danse n'a que peu de relais. Donc ça a vraiment été toujours un objectif, je dirais, que de rapprocher la danse des habitantes et des habitants des terrains de vie sur lesquels on était, quoi.
Je rappelle que vous avez la parole ce matin dans Je pense donc j'agis. Si vos enfants font de la danse, qu'est-ce que ça leur apporte d'après vous? Ou si vous avez déjà fait de la danse quand vous étiez plus jeune, est-ce que ça vous accompagne encore aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie? Vous venez témoigner au 04 72 38 20 23. C'est Mélissa qui attend vos appels, 04 72 38 20 23. Vous laissez vos mails à l'adresse direct@rcf.fr et vous rejoignez le groupe Facebook Je pense donc que j'agis pour poster là aussi tous vos témoignages. On va justement écouter de la danse avec Yves Duteil et on se retrouve juste après sur RCF.
Vous avez appris la danse, danse, vous avez appris les pas. Redonnez-moi la cadence, dansez, venez danser avec moi. Ne me laissez pas la danse, danse pas la danse, c'est comme ça. Venez m'apprendre la danse, danse et la danser avec moi. Vous savez la tarentelle, telle qu'on la dansait autrefois. Moi je vous montrerai celle que demain l'on dansera. Si vous donnez la cadence, danse, moi je vous donne le la. Je vous l'apprendrai la danse, 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 joli petit bois. Et si vous aimez ma danse, danse, et si vous aimez mon pas, on pourra danser, je pense, pense, aussi longtemps qu'on voudra. Mais ne me laissez pas la danse, danse pas la danse, cet état-là. Ne pensez-vous qu'à la danse, 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 joli petit bois. Quand le feuillage est si dense, danse, quand le soleil est si bas, que voulez-vous que l'on danse, danse, dans les jolis petits bois. Quand votre robe s'élance, lance, moi j'ai le cœur en éclat. Si vous perdez la cadence, danse, serrez-vous bien dans mes bras. Et s'il arrive que même, tout doucement dans le bois, j'aille vous dire je t'aime, t'aime, si le bonheur était là, là, pour nous donner la cadence, danse, pour nous donner le la, et pour que tout recommence, mince, à tout petit pas. vous avez appris la danse, danse, vous avez appris les pas. Pour qu'on vous aime, je pense que je vous aime déjà. C'est là que finit la danse, danse là dans l'ombre des bois. Mais notre amour qui commence, mince, jamais ne s'arrêtera. C'est là que finit la danse, danse là dans l'ombre des bois. Mais notre amour qui commence, mince, jamais ne s'arrêtera.
Natacha Lefrène, c'est simple à danser, la tarentelle?
Alors franchement, j'en ai aucune idée. La tarentelle, il me semble que c'est une danse qui est originaire du sud de l'Italie, qui est une forme de danse qui était là aussi pour exorciser les personnes qui pensaient avoir été piquées par une araignée, semble-t-il.
Donc il y a un vrai historique alors. Tarentelle, tarentule peut-être.
Tarentule, voilà. Exactement. Ça me revient comme ça tout à coup à l'esprit, puisque je connaissais un chorégraphe qui s'était intéressé à cette danse-là. Et c'est vrai que c'est important aussi de dire que la danse est connectée à nos cultures, à nos cultures, à nos rituels, voilà. Et donc la tarentelle, on est peut-être un exemple, même si j'ai jamais eu l'occasion de l'avoir pratiquée.
Ben voilà, peut-être un jour. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que vous parlez de l'historique de la danse. Ça peut être des danses, bien sûr, la valse, il y en a d'autres. Est-ce que ça fait partie aussi des actions de votre association, de à la fois rendre accessible la danse, en parler, la démocratiser, mais aussi de parler de l'histoire de la danse?
Oui, alors en effet, c'est important de communiquer, de donner quelques clés de compréhension historique aussi, à la fois au public, mais aussi aux partenaires avec lesquels on travaille au quotidien, qui peuvent être des programmateurs pluridisciplinaires, des enseignants de l'éducation nationale. Voilà, donc nous, un de nos enjeux, c'est aussi de pouvoir rendre accessible, je dirais, cette culture chorégraphique au plus grand nombre, par tout ce volet de communication de l'histoire de la danse. Néanmoins, je dirais que ce n'est pas la seule entrée possible, puisque à mon sens, la danse, elle se ressent. Et on n'est pas obligé d'avoir les codes ni de connaître sur le bout des doigts l'histoire de la danse pour pouvoir l'apprécier. Et je dis ça parce que si on fait un parallèle avec des musiques, par exemple, qu'on écoute, parfois on écoute des musiques en anglais, on comprend pas forcément les paroles.
Ça, c'est sûr.
Et il n'empêche qu'on se laisse embarquer par le rythme, par l'émotion, par la sensation que ça nous procure. Et je pense aussi qu'il faut qu'on, quand on aborde une œuvre de danse, qu'il faut qu'on se détache de la question de la compréhension. Ce qui est pas toujours simple, parce qu'on a aussi toujours envie de, je dirais, on est dans une société, on a envie de tout comprendre. Et justement, c'est ça aussi un des apports de la danse, c'est que ça peut nous apporter des compréhensions, mais sensibles. Donc parfois, il faut aussi juste se laisser porter et accepter que un même spectacle va être vécu de façon totalement différente par chaque spectateur. Et c'est ça qui est génial, c'est que chaque spectateur a justement la capacité de se raconter sa propre histoire à partir de ce qu'il voit. Et ça, je trouve que c'est aussi un levier important, même sur le plan de la l'émancipation individuelle, de pouvoir se dire on a le droit de se raconter sa propre histoire à partir de ce qu'on voit.
Alexia Ducassé, sur le site internet de l'association Art en Danse, il y a une phrase qui m'a tiré l'œil, je vous la cite. « L'inclusion de tous dans la possibilité de la pratique de la danse est une valeur forte et fondamentale au sein de l'association. » En quoi la danse peut être inclusive, d'après vous? En quoi la danse peut être aussi vecteur d'éducation?
Alors, je pense que ce qui permet l'inclusion totale, c'est que la danse, c'est un langage à part entière. La danse, c'est parler avec son corps, c'est ressentir ses émotions. Effectivement, c'est dire des choses que parfois on n'arrive pas à dire à l'oral. Ce qui est merveilleux quand on danse, c'est que on peut ne pas parler la même langue, on peut ne pas avoir la même culture, mais on peut se comprendre par le mouvement. Et d'ailleurs, c'est le premier truc qu'on fait quand on rencontre quelqu'un dont on ne parle pas la langue, on bouge. On mime, on a des expressions du visage, on essaye simplement par le ressenti de communiquer. Pour moi, c'est un vrai vecteur parce que tout le monde arrive au même niveau. Tout le monde apprend un nouveau langage et arrive à communiquer d'une différente façon, peu importe qui on est et d'où on vient.
Et pour vous, Natacha Lefrène, en quoi c'est
oui.
Oui, allez-y.
Non, allez, prenez la suite. Hein. Poser la question.
Non, non. Bah, alors, je vous pose la question. En quoi, pour vous, avec votre expérience, bien sûr, hein, c'est l'expérience qui parle aussi. Bah, vous avez l'impression que la danse peut être inclusive ou en tout cas peut vraiment servir d'éducation.
Bah, c'est en effet, c'est les expériences qui nous le prouvent au quotidien. Nous, on travaille en permanence avec des personnes qui, au début des rencontres, nous disent « Non, mais moi, je m'engage dans ce projet, mais de toute façon, je ne danserai pas. » Donc, parce qu'il y a aussi, pour certains, une difficulté à se mettre en mouvement et à laisser justement son corps parler. Ça suppose aussi une forme de lâcher prise, une ouverture sur une autre facette de soi qu'on ne connaît pas forcément et une confiance, je dirais, pour livrer son intimité. Et là, il y a un projet qui me vient en tête puisque voilà, la restitution de ce projet a eu lieu à Carhaix la semaine dernière. C'est un projet qu'on a mené avec le Centre Pompidou au pays du Centre-Ouest Bretagne. Où on a proposé un projet de danse à des agriculteurs, donc une association qui s'appelle les Racines du Blavet, donc association d'agriculteurs en exercice, et des lycéens d'un lycée agricole à Gourin, donc en territoire rural, où évidemment, quand la question de la danse a été amenée par le chorégraphe Thierry Micoin, les agriculteurs se sont un peu regardés en disant « ça va pas être simple cette histoire ». Et malgré tout, ils se sont engagés dans le processus et d'entendre leur retour à la fin du parcours, ça a été hyper fort puisque, bon, pour vous donner quelques exemples, il y a un agriculteur qui a pu témoigner en disant « mais finalement, moi, mes gestes au travail, je les vois plus de la même façon. Quand j'arrache mes topinambours, je suis plus attentive aux gestes que je produis au quotidien. » Donc ça change finalement la vision qu'on a de l'environnement. Il y a eu un autre témoignage qui disait « moi, ce qui m'importe plus maintenant, c'est le processus et pas forcément le résultat. » Donc c'est ouais. aussi des approches de la vie et du monde qui peuvent finalement se redécouvrir par le biais d'expériences de danse. Oui. Et voilà.
Bah justement, la danse, on continue d'en parler jusqu'à 11h ce matin dans Je pense. Donc, Jagi, vous continuez de nous joindre au 04 72 38 20 23 pour nous parler de votre expérience en matière de danse. On a hâte de vous entendre à l'antenne. On va tout de suite accueillir notre chroniqueur.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et comme chaque mardi, on ouvre les pages du magazine La Vie et on agit. Bonjour Martin Ferron.
Bonjour Melchior.
Vous êtes rédacteur en chef à La Vie. Vous nous emmenez ce matin dans le centre de la France.
Et oui Melchior, je vous emmène même en train direction la bien nommée Cap de la Gare, une petite bourgade qui est nichée dans les collines aveyronnaises.
Alors l'Aveyron, pourquoi pas, Martin, mais pourquoi en train?
C'est justement, Melchior, ce moyen de locomotion qui est au cœur du reportage d'Axel Puig, que vous pouvez retrouver dans la rubrique Un monde meilleur cette semaine dans La Vie. Alors, vous n'ignorez pas, Melchior, parce que je sais que vous connaissez bien tout ce monde-là, vous qui suivez l'actualité du monde et de notre pays, que le transport ferroviaire n'est plus le monopole de la SNCF, que ce soit pour le fret ou le transport de voyageurs, et que des initiatives fleurissent un peu partout en France, comme celle de la société coopérative Railcoop, qui fêtait il y a un peu plus d'un mois à Cap-de-Nac l'arrivée du premier train de marchandises, parti 3 heures plus tôt de la périphérie de Toulouse, chargé ce train de café, de thé et de biscuits bio.
Et quel est l'objectif de Railcoop?
Déjà, d'exploiter des lignes laissées à l'abandon depuis des années et désenclaver des zones territoriales. Ensuite, c'est une démarche écologique, enlever des camions des routes. Songez que deux trains de 8 wagons représentent 32 camions. Et Railcoop prévoit en effet une rotation journalière de ces trains 5 jours sur 7. Melchior, je vous laisse faire le calcul.
Et donc ça veut dire que Railcoop n'assurera que du fret?
Non. Clairement, l'objectif affiché des créateurs de cette coopérative, c'est de reprendre et développer le transport de voyageurs sur des lignes délaissées. Alors les besoins existent, surtout dans un contexte où les déplacements dans certaines zones du territoire ne peuvent se faire qu'aujourd'hui qu'en voiture, alors que le prix du carburant augmente et que l'on ne parle que de décarbonation.
Mais comment une structure coopérative peut-elle se lancer dans une telle aventure, Martin?
Ça, c'est un aspect passionnant du reportage d'Axel. Les autorités attendaient la concurrence de grands acteurs du transport. Ils se retrouvent aussi avec des initiatives associatives. Pour Railcoop, c'est l'histoire d'un haut fonctionnaire, Nicolas de Bézieux, qui s'est lancé dans l'aventure avec une dizaine de personnes, des acteurs du monde du rail, de l'économie sociale et solidaire, de l'aménagement du territoire et de la transition écologique. En 2 ans et demi, leur STIC, une société coopérative d'intérêt collectif, rassemble 10 000 sociétaires, dont des particuliers évidemment, et des collectivités territoriales intéressées par cette solution à l'accessibilité des territoires dans le respect d'une indispensable transition écologique.
Et cette première ligne voyageurs annoncée, où est-ce qu'elle sera assurée?
Alors, en bon lyonnais, elle va vous intéresser, Melchior, ainsi que vos amis de RCF Bordeaux, puisque ce train reliera la capitale girondine et la capitale des Gaules, la grande transversale d'ouest en est, tarif annoncé 38 euros, durée 7 heures.
Alors, c'est un prix intéressant, mais 7 heures, c'est pas du direct, si?
Non, alors en voiture, vous mettriez 5h30, j'ai regardé.
Ah oui.
Et là, en revanche, en train, tout l'intérêt, c'est qu'on peut y monter à Libourne, à Limoges, à Saint-Sulpice-Lurière, vous connaissez Saint-Sulpice.
C'est en Haute-Vienne.
Oui. Guéret, c'est dans la Creuse. Saint-Germain-des-Fossés, dans l'Allier. Et Rouen, c'est un peu plus près de chez vous, dans la Loire. C'est une ligne qui est abandonnée depuis 7 ans par la SNCF, faute de rentabilité. Et je suis sûr que ça concerne un bon nombre de vos auditeurs.
Ouais, j'espère.
Et puis je vous donne, Melchior, rendez-vous sur le quai en décembre 2022 pour l'inauguration, c'est dans un an.
Eh ben, on ira ensemble, Martin Ferron. Merci beaucoup pour cette chronique et on pourra lire cet article donc ce jeudi dans les pages du magazine La Vie. Martin Ferron, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au magazine La Vie. Vous êtes sur RCF, il est 10h26, on continue de parler de la danse avec nos deux invités ce matin dans Je pense donc j'agis, Alexia Ducassé. Vous êtes gestionnaire de l'association Art en Danse, hein, vous êtes basée à Paris, je le rappelle. Et puis Natacha Lefrène, vous êtes directrice et programmatrice de danse à tous les étages. Ça me fait penser d'ailleurs, selon de l'association, à une émission importante qui est diffusée sur TF1, c'est Danse avec les stars. Est-ce que c'est une émission importante aussi pour faire connaître un peu plus la danse au grand public, Natacha Lefrène?
En effet, je pense que tous les espaces médiatiques autour de la danse sont des portes d'entrée aussi de découverte finalement de cette pratique et de cet art. Et d'ailleurs, merci et bravo d'en faire un sujet aujourd'hui.
Vous trouvez qu'on n'en parle pas assez, la danse ?
Oui. J'aimerais ne parler que ça, évidemment. est-ce qu'on n'en parle pas assez? C'est possible. C'est vrai que dans l'espace de la presse écrite, la danse peut être chroniquée dans les grands quotidiens nationaux, mais c'est vrai que ça reste bien souvent confidentiel. À la télévision, il y a eu, pendant le confinement, cette chaîne Culture Box,
oui,
qui a été vraiment intéressante parce qu'elle a permis finalement d'inviter sur le plateau de cette émission des chorégraphes qui pouvaient être aussi de jeunes chorégraphes émergents ou des chorégraphes plus confirmés. Et le fait que ça passe par un médium très grand public a, je pense, permis aussi de faire connaître des démarches différentes aux spectateurs. Donc dans Avec les stars, pour moi, c'est aussi une porte d'entrée vers une curiosité. Oui, en effet, je pense que ces espaces sont vraiment intéressants. Et il me semble que cette émission est regardée par un très grand nombre
bien.
De téléspectateurs.
Ah ouais, ça fait une partie des émissions importantes du paysage audiovisuel français. Voilà, le PAF. Alexia Ducassé, est-ce qu'il existe beaucoup de préjugés autour de la danse quand vous rencontrez ces jeunes parfois qui vont entrer dans l'association pour la première fois? Est-ce qu'ils ont des clichés sur la danse?
Alors oui, les enfants, les tout petits, pas forcément. Ce qui est super avec les tout petits, on les prend à partir de 4 ans et ils ont l'habitude à l'école, on chante, on danse, on s'exprime de différentes façons. Donc là, on va avoir autant de petits garçons que de petites filles et c'est super intéressant. Quand ils entrent en CP, c'est un peu plus compliqué de les garder. Surtout les petits garçons, on n'arrive pas, on a beaucoup de mal. Alors on passe par les danses urbaines, on essaye d'expliquer. On a très très peu de petits garçons, dans les écoles. Les a priori, évidemment, mais ça va être plutôt, je pense, pour les ados et les adultes. Moi j'entends souvent, j'ai tellement envie de danser, mais bon, c'est trop tard. J'ai 30 ans, je n'ai jamais fait de danse classique et je suis pas souple. Et je dis, mais ça n'a rien à voir avec la souplesse, en fait.
Tout le monde peut danser.
Tout le monde peut danser, mais tout le monde danse, en fait. Prenez quelqu'un dans le métro avec ses écouteurs et Et la mesure va être battue par la tête, par le pied. C'est inné, en fait. C'est en nous, c'est ancré. Alors, on l'a oublié dans notre société actuelle. Mais comme disait Natacha tout à l'heure, ça fait la danse a toujours fait partie de nos sociétés, de nos rituels. Voilà, on l'a oublié. Mais en fait, quand on va dans un bar dansant et qu'on s'agite le samedi soir, c'est aussi aller danser. C'est pas simplement aller prendre en cours, c'est danser au quotidien. Quand on est en train de faire la cuisine avec la musique à fond ou de prendre sa douche. Tout à fait. Mais c'est voilà, c'est inné, tout le monde. D'ailleurs, c'est la chose que j'ai le plus entendue pendant le confinement. Ouais. Les gens disaient, mais j'ai tellement envie d'aller danser. Pourtant, c'est des gens qui n'étaient pas danseurs. Ouais. Et en fait, ça manque parce que c'est une autre façon de s'exprimer, mais les gens ne se rendent pas compte. Ouais. Donc, des préjugés, oui, sur les techniques plutôt classiques, mais je pense que ça parle à tout le monde.
Quel souvenir avez-vous de la danse? Qu'est-ce que représente la danse pour vous? Vous nous appelez au 04 72 38 20 23 pour venir à l'antenne. On vous attend pour vos témoignages. Vous laissez également vos messages dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis et par mail à l'adresse direct@rcf.fr. On marque une petite pause. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Allez, 10h32, on va vous proposer de danser un petit peu, ça fait du bien. Profitez-en, chanson qui date de 1979, c'est pas une nouveauté, mais c'est Dalida et c'est un tube. Alors faites-vous plaisir, à tout de suite.
J'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de vivre, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi.
Laissez-moi danser, chanter.
Laissez-moi danser, c'était Dalida sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et toujours avec nos deux invités qui ont dansé en studio, Alexia Ducassé, vous êtes gestionnaire de l'association Art on Danse, vous êtes basée à Paris. Natacha Lefrène, vous êtes directrice et programmatrice de danse à tous les étages. On va tout de suite accueillir Josette qui habite à Tours, qui nous appelle au 04 72 38 20 23. Bonjour Josette.
Oui, bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour, on vous écoute.
Oui, alors, ce qui me vient à l'esprit... Il y a une grande danseuse qui a dit « Dansons, dansons, sinon nous sommes perdus ». C'est une danseuse très originale qui est morte maintenant. Son nom va me revenir.
Pina Bausch. Pina Bausch.
Ah, voilà, Pina Bausch. Et il y a une espèce de grand nettoyage qui se fait dans la danse, que j'ai vu dans mes élèves aussi. Elles arrivent en fin de journée, le regard un peu triste. Et à la fin, il y a quelque chose de magique. Je vois des cœurs qui s'ouvrent. Les yeux qui brillent, et chacune s'assoit et se met à parler. Comment dire ? J'ai même pas les mots. Ça nous rend notre pouvoir d'exister. Voilà, ça c'est le mot clé.
Ça vient du cœur là, hein, Josette.
Ah oui, et moi je danse tous les matins parce que c'est une espèce de grand toilettage. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Quelqu'un a dit, je crois que c'est ce danseur qui est devenu prêtre là, qui s'appelle Franck, je sais plus. Plus on danse, plus on est vivant.
C'était Franck Le Gros, je crois. Hein.
Voilà, ça y est, c'est Franck Le Gros et c'est infiniment vrai. Et c'est comme si, alors moi je danse presque tous les matins, et j'endosse une espèce de prêt-à-vivre pour toute chose que j'ai à faire. Parce que je me ressouviens de qui je suis, c'est-à-dire comme tout le monde, unique au monde, avec ce pouvoir de vivre. Je renoue avec le meilleur de moi-même. Et il y a une dimension complètement spirituelle, c'est-à-dire que, même sans le faire exprès, on célèbre la vie. Et voilà, c'est une façon aussi de guérir. Et sur mes notes aussi, je prends des notes, il y a quelqu'un qui a dit qu'on retrouvait, on fortifiait notre immunité naturelle. Oh, comme c'est vrai, ça se sent très bien, quoi.
Ce que vous n'avez pas dit, Josette, encore, oui, c'est que vous avez été prof de danse.
En second métier, j'ai été prof de danse. Voilà. Et c'était ma grande joie.
Et je trouve ça important aussi de le dire. Merci beaucoup de nous avoir appelés ce matin dans Je pense donc j'agis pour apporter ce témoignage. Natacha Lefrène, c'est très fort hein, ce qu'on vient d'entendre de la part de Josette. Ça nous rend notre pouvoir d'exister, je reprends ces mots. Natacha, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes là, Natacha ? J'ai l'impression qu'on a perdu Natacha, qui est à Rennes. Qui est à Rennes.
Ah oui.
Qui est à Rennes.
Ah oui.
Alors, il y a un petit écho. Ça arrive. On va retrouver Natacha Lefrène en direct de nos studios à Rennes. Alexia Ducassé, je vous pose la question parce que vous avez entendu ce beau témoignage de Josette.
C'est très émouvant, en fait. Je trouve... qu'il y a une telle émotion qui se dégage et puis cette personne qui danse tous les jours, qui en a fait son métier à un moment et c'est de redevenir soi par le corps, ça fait vraiment écho. Elle a parlé de guérir aussi, de guérir et moi je suis tout à fait persuadée de ça. D'ailleurs dans l'association on est en train de monter des cours de danse thérapie pour les femmes victimes de violences pour justement guérir par le corps, guérir les blessures intérieures. Voilà, et je suis tellement d'accord avec ce témoignage.
Avec ce beau témoignage. Oui. Natacha Lefrène, je crois qu'on vous a retrouvé depuis Rennes. Est-ce que vous avez pu entendre le témoignage de Josette ?
Je l'ai entendu en partie et
après ça a coupé.
Oui, voilà, c'est ça. J'ai été très touchée en effet par ce témoignage et qui vient complètement corroborer à nous les expériences qu'on a au quotidien.
Oui.
La danse, c'est vrai que ça apporte énormément sur la connaissance de soi, le rapport au monde. Et en effet, ça peut aussi permettre de venir passer un petit coup d'éponge sur les problèmes du quotidien, se recentrer aussi sur ses sensations, ses émotions, venir guérir aussi des blessures, on l'a entendu aussi dans le témoignage. Donc c'est un formidable outil au service de la vie.
On va accueillir dans quelques instants Marie-Joseph et Marie-Thérèse qui patientent au 04 72 38 20 23. J'aimerais qu'on parle quand même de l'école parce que la danse n'est pas enseignée de manière systématique dans les écoles, Alexia Ducassé. C'est dommage, il faudrait que ça évolue aussi pour ça.
Alors oui, après à Paris, il y a quelque chose qui s'appelle les temps périscolaires qui ont encore lieu en fait, hein, le mardi et le vendredi. Et la chance qu'ont les petits Parisiens, je crois, parce que pour moi c'est une vraie chance, c'est qu'ils terminent l'école à 15h et que de 15h à 16h30, ils ont des activités qui leur sont proposées et notamment la danse dans énormément d'écoles. Donc effectivement, c'est pas dans le cursus scolaire, mais ils ont vraiment accès à la danse et c'est comme ça aussi que moi j'ai connu les enfants qui sont aujourd'hui élèves dans mon association. Mais effectivement, il faudrait avec les enseignants pouvoir avoir cet espace-là au même titre que les mathématiques, le français, je pense.
Natacha Lefrène, le temps périscolaire, je crois qu'il existe dans toute la France, hein, je crois que ce n'est pas qu'à Paris.
Sans doute. Après, il est investi différemment.
Ah, on a encore une coupure avec, avec Rennes. On va essayer de rétablir la liaison. Ben, c'est pas grave. On va accueillir en attendant Marie-Joseph qui habite dans le Morbihan. Bonjour Marie-Joseph.
Bonjour.
Bonjour.
Je voulais vous dire que pour moi, la danse, c'est la joie. Voilà. C'est lié à une plénitude de vie. J'enseigne la méthode Malkowski depuis près de 30 ans et vraiment quand j'ai entendu que votre émission parlait de la danse, je me suis enfin on parle de la danse. Alors à propos des enfants, regardez les enfants, un petit enfant qui apprend à marcher, ses premiers pas, regardez le visage de l'enfant qui fait ses premiers pas. Souvent il est ébloui, il est émerveillé, il est heureux, c'est extraordinaire. Et à propos des enfants plus grands, je voulais vous dire que la danse c'est structurant. Parce que la danse apprend à se situer dans son corps, dans l'espace, par rapport aux autres. Et ça, c'est très important. Et on voit qu'il y a un grand déficit. On voit des gens qui sont au milieu du passage, par exemple. On sort du métro, et ils sont arrêtés là, en plein milieu. Ils gênent des dizaines de personnes qui passent. Ouais. Ils ne s'en aperçoivent pas. Ouais. Et ça, quand on danse avec d'autres, on s'habitue à se situer par rapport à l'espace qui nous entoure, qui peut être plus ou moins grand, plus ou moins exigu, par rapport aux autres personnes qui sont là. C'est très, très, très éducatif.
Eh bien, écoutez, c'était très intéressant. Merci beaucoup d'être venu à l'antenne. Marie-Joseph, en direct au 04 72 38 20 23. Alors, on n'a pas encore retrouvé Natacha Lefrène. Hein. Il y a une coupure du côté de Rennes. Alexia Ducassé, je cite Marie-Joseph qui nous disait la danse, c'est structurant. Est-ce que ça fait aussi partie des actions de votre association Art en Danse de dire aux élèves, ou en tout cas à ceux qui participent au cours dans l'association, de prendre possession de l'espace, de trouver leur place.
Ah, c'est la chose la plus importante, oui. Se repérer dans l'espace et par rapport aux autres. Moi, c'est plus ça qui m'interpelle aussi, c'est par rapport aux autres. Je disais à des amis il y a pas plus tard qu'hier que effectivement les gens dans le métro le matin, on dirait des Sims qui sont complètement complètement comme ça,
des personnages figés un peu,
exactement. Et et pour moi c'est super important effectivement la gestion de l'espace et trouver sa place. Un enfant très timide qui aurait du mal à prendre de l'espace, ça peut mais tellement lui faire de bien d'être dans un groupe groupe bienveillant, d'apprendre à prendre sa place. C'est ce qu'on essaie de faire, notamment avec les pré-ados, parce que c'est vraiment un âge où on se recroqueville, toutes ces jambes et ces bras qui arrivent, qui grandissent d'un coup, on ne sait plus où les mettre. Et donc, on est obligé de restructurer les corps et l'espace des élèves. Et effectivement, ça permet vraiment de ça leur permet vraiment de s'ouvrir aux autres et à l'espace. Voilà.
Natacha Lefrène, on vous a retrouvé en direct de Rennes. J'espère que la liaison va être stable au moins jusqu'à 11h. On parlait de l'espace, hein, trouver sa place, trouver prendre possession de l'espace quand on danse, ça fait aussi partie des actions de votre association, de placer l'individu dans la société.
Oui, absolument. Et je pense que c'est d'autant plus essentiel en pleine crise qu'on est en train de vivre aussi, crise sanitaire, avec les phases de confinement successives qu'on a pu vivre, où finalement nos corps étaient enfermés, confinés dans des espaces relativement plus ou moins exigus, mais où les corps étaient isolés aussi les uns les autres. Et je pense que cette pratique aussi de la danse et cette expression du corps, elle est d'autant plus importante aussi pour surmonter la crise qu'on est en train de vivre. C'est un rapport aussi à l'autre. On a pu nous constater, notamment dans tout le travail qu'on mène avec des partenaires sociaux, que les personnes déjà en difficulté avaient eu tendance à se renfermer encore davantage pendant les phases de confinement, et finalement de les ouvrir, de les amener petit à petit à s'exprimer par le corps et à pratiquer aussi la danse collectivement, à se toucher, parce que finalement on a été aussi très isolés, le sens du toucher n'a pas été vraiment sollicité pendant ces derniers mois. C'est aussi essentiel au jour d'aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous proposez comme danse au sein de l'association Danse à tous les étages, Natacha ?
Alors nous, on propose une diversité de danses liées aux projets artistiques des chorégraphes avec lesquels on travaille. Donc on invite à chaque fois des auteurs chorégraphiques, donc des personnes qui développent un travail de création, des spectacles en l'occurrence, à venir proposer, partager leur espace et leur imaginaire à des amateurs et des personnes qui a priori n'ont jamais dansé. Donc les styles de danse, ils sont aussi divers, à l'image des projets artistiques proposés par les chorégraphes.
Et donc, vous avez des exemples, peut-être, pour nos auditeurs,
pour illustrer. J'en ai plein. Par exemple, je vais vous citer les 5 jeunes artistes qu'on accompagne dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Tremplin, où on travaille avec un chorégraphe qui s'appelle Bruce Schaeffer, qui est issu de la danse du breakdance, donc plutôt une danse urbaine qui se pratique au sol et qui la détourne en s'inspirant de l'univers de la nature et de la botanique. On peut travailler aussi avec des chorégraphes qui sont plutôt issus de justement d'une tradition bretonne. Je pense à 2 jeunes chorégraphes de la compagnie Roari qui s'inspirent des danses traditionnelles pour créer et les réinventer dans un espace de création contemporaine. Donc ça va vraiment toucher des pratiques très très différentes les unes des autres. Le point commun entre ces différents projets artistiques, c'est vraiment le fait qu'ils soient portés, pour nous en tout cas, par des créateurs et des auteurs, donc dans un espace de création et d'invention.
Qu'est-ce qui vous fait danser, vous, Natacha Lefrène ? Est-ce que vous avez une chanson, une musique qui, à tous les coups, vous fera bouger ?
j'ai un peu trémoussé sur Dalila.
Ouais. Ah, on est d'accord, hein.
Moi, je suis assez sensible aux questions de rythme.
Oui. Donc
c'est vrai que ça peut être certains rythmes qui me donnent envie de bouger, mais globalement, je suis plutôt bonne joueuse. Hein. C'est-à-dire que n'importe quelle musique peut me donner envie de danser, voire danser sans musique, ça me gêne pas non plus.
Ah oui, quand même. Alors là, il faut être inspiré. Comment vous faites pour danser sans musique ?
Eh bien, pour danser sans musique, on se met à l'écoute de sa propre pulsation, par exemple.
Ah, c'est tout un programme. Bon, Alexia Ducassé, et vous alors ? Est-ce que vous avez une danse qui vous fait vibrer ? Enfin, une chanson ?
Chanson, je ne sais pas, c'est très
chanson
cyclique.
Chanson musique, hein, oui.
C'est très cyclique en fait, parce que je vais avoir un coup de cœur pour un morceau en particulier, et tant que je ne l'ai pas dansé, je vais passer en obsession dessus. Je vais l'écouter plein de fois, et puis une fois que je l'ai dansé, ça va mieux. Je sais pas, il y a quelque chose qui est sorti. Donc c'est très cyclique, je saurais pas répondre. Bon. Voilà, il y a eu un moment où c'était Voilà de Barbara Pravi.
Ah bah elle est sympa celle-là, ouais. On peut peut-être la mettre un petit instant si vous voulez. On va aller la chercher, de Barbara Pravi. Je vais tout de suite la trouver parce qu'on l'a, beaucoup passé, hein, Barbara Pravi. Et c'est normal parce que c'est une grande artiste aussi qui fait du bien, je trouve, à la France. Alors attendez, on va aller la récupérer dans la base de données. Voilà.
Écoutez-moi. Moi la chanteuse à demi, parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire, que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. De choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, 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 juste ici. Moi, mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours.
Voilà, bah oui, c'était Barbara Pravi sur RCF. Qu'est-ce qui vous attire dans cette musique, Alexia Ducassier ? C'est le rythme qui augmente à la fin jusqu'à un point de incroyable.
Je crois qu'il y a un espèce de tourbillon qui emporte comme ça. Et puis, je sais pas, ça fait écho aussi à des chansons qui sont beaucoup plus anciennes et qui sont très ancrées, les chansons d'Edith Piaf, etc., qui... Je sais pas, dès qu'on entend cette chanson pour la première fois, on est pris dans un espèce de...
Un tourbillon, une ritournelle.
Exactement, ouais. Nostalgique et en même temps très actuel. Enfin voilà, bon. Je sais pas.
Non mais c'était intéressant aussi de l'écouter et puis de décrypter cette danse. Nicole est avec nous depuis Villeurbanne. Bonjour Nicole.
Oui, bonjour Villeurbanne et Lyon, la maison de la danse.
Oui, tout à fait.
Lyon. Oui. Voilà, et j'ai fait connaissance avec la danse à 60 ans. J'en ai 81 et je continue dans la maison de la retraite où je suis. Et à 60 ans, je voulais pas que l'émission se termine sans pouvoir parler de Pierre Deloche, qui a été le chorégraphe pendant 10 ans et même plus, qui a beaucoup œuvré sur Lyon. en danse contemporaine ou en danse actuelle. Et sa spécificité, donc, il y a déjà plus de 20 ans, c'est qu'il nous faisait danser, participer au Biennale de la danse avec des personnes malentendantes ou même sourdes complètement, avec des personnes aveugles, avec des personnes en fauteuil roulant, pas tout en même temps, hein, toutes les biennales tous les 2 ans. Et c'est vrai que ça m'a ouvert à beaucoup de choses. Donc je voudrais vraiment redire son nom parce qu'il était assez connu à Lyon, Pierre Deloche, qui est décédé il y a 10 ans et qui a eu la chance, je dirais, de faire des petits maintenant parce qu'il y a pas mal d'écoles de danse. Celle à laquelle je participe en ce moment dans une région de personnes âgées et j'ai 81 ans. Donc effectivement, je cautionne tout ce qui a été dit avant dans votre émission et j'aimerais avoir tout noté par écrit pour le transmettre.
Bah, vous pourrez réécouter l'émission. Merci, c'est gentil Nicole d'être venue à l'antenne dans Je pense donc j'agis. Natacha Lefrène, vous connaissez le chorégraphe montalbanais Pierre Deloche?
Oui, je connais aussi le merveilleux travail qui est proposé par la Maison de la Danse de Lyon et la Biennale de Lyon chaque année, avec une dimension aussi qui est très importante dans leur projet et auquel on tient aussi, nous, à Danse à tous les étages. C'est celle aussi des projets participatifs, puisque donc tous les 2 ans, sur la Biennale de Lyon, il y a ce grand défilé qui est un moment très fort aussi. Donc, tous les Lyonnais travaillent au préalable avec des chorégraphes pour faire cette grande chorégraphie collective dans l'espace public. Et voilà, et ça c'est des moments aussi très fédérateurs, très importants,
très culturels également.
Exactement, et à l'image un petit peu des défilés de carnaval ou des choses comme ça, mais en tout cas qui permettent déjà à des personnes qui n'auraient jamais imaginé pouvoir danser de se retrouver dans un projet qui implique des centaines de personnes. Et le fait que ce soit dans l'espace public aussi, ça affirme quelque chose à mon sens de très fort. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour le travail qui est mené par la Maison de la Danse de Lyon. Il faudrait qu'il y en ait plus.
Ça me fait penser à un message de Christiane qui habite en Bretagne. Elle nous dit « Chez nous, nous avons toujours dansé. Nous sommes espagnols. C'est dans notre culture. J'ai rencontré mon mari sur une piste de danse. On dansait pour se dire qu'on s'aimait. » Je trouve ça très beau. Ou encore Xavier de Cloire-Fouenant qui nous dit « Je suis dans un foyer où tout le monde danse. Ça remet du baume au cœur quand ça ne va pas. » Eh bien, écoutez, je crois que c'est sur ces deux belles paroles qu'on va se quitter. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci Alexia Ducassé.
Ben merci pour cette invitation.
Avec grand plaisir. Je rappelle que vous faites partie de l'association Art en Danse. On peut retrouver plus d'informations sur le site internet, donc artendanseparisasso.fr. On mettra le lien sur notre site rcf.fr. Merci beaucoup Alexia Ducassé. Merci également à vous Natacha Lefrène.
Merci.
Vous êtes directrice et programmatrice de Danse à tous les étages. Là aussi, on peut retrouver plus d'informations sur le site danseatouslesetages.org. Merci à Xavier Jean qui était à la réalisation de votre côté, Natacha Lefrène et qui nous a sauvés dans la liaison avec Rennes. Merci à Thomas qui était avec moi, Pierre-Henri qui était à Paris, Mélissa qui était également au standard et qui a beaucoup dansé dans cette émission. Merci à vous toutes et tous pour vos nombreux appels et témoignages. Demain, on se retrouve 9h-11h pour Je pense donc j'agis. On va parler de l'engagement et notamment à l'occasion du lancement des trophées de l'engagement des jeunes éditions 2022. Je vous souhaite une très bonne journée avec RCF et à demain.